Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Fait Main, le podcast qui vous fait rencontrer les entrepreneuses créatives. Avant de démarrer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à écouter et à partager sur Instagram. Nous avons franchi la barre des 5000 écoutes. Vos retours sont un vrai moteur pour moi et j'aime beaucoup nos échanges sur Insta. D'ailleurs, à la suite d'un petit sondage à Instagram, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez tous les épisodes si vous préférez écouter sur YouTube et non sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. Je vous invite donc à vous y abonner. Allez, aujourd'hui, on part à la rencontre de Marion Romain, qui s'est lancée en 2019 dans une belle aventure entrepreneuriale en vendant ses broderies, ses guides pour broder et ses linogravures. Marion nous raconte en toute transparence ses difficultés à trouver l'équilibre, surtout en fin d'année, où les commandes se sont accumulées en même temps que la fatigue. Mais on sent en Marion la force de rebondir et de dépasser les limites qu'elle a trouvées dans son activité. Marion nous parle également de ses sources d'inspiration, de sa Bretagne et de ses projets créatifs. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue Marion, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast.
Bonjour Mélanie, merci de m'avoir invitée. C'est un tout nouvel exercice pour moi et pourtant je suis une fan de podcast, mais plutôt du côté... des écoutes de podcasts.
Très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui. Alors, je suis Marion. Je suis originaire de Bretagne. Je suis ce qu'on peut appeler une entrepreneuse créative. Je suis la fondatrice de ma marque presque éponyme, puisque c'est le Marion Romain, c'est le nom créatif que j'ai choisi au moment de me lancer. Donc, je propose mes créations sous forme de broderie, de linogravure. Parfois, je croise un peu les deux sur un même support. Et donc, tout ça sur Etsy. Ou bien, donc, c'est aussi ma casquette pour partager un contenu créatif plus large, que ce soit autour de l'artisanat, du do-it-yourself, des ateliers créatifs que je propose aussi parfois en boutique, etc.
Ok. Et donc, tu viens de Bretagne?
Oui, je suis bretonne, finistérienne.
Très précisément.
Très précisément, c'est important. Les Bretons sont attachés à leur région.
Il paraît, oui.
Je crois.
Leur très belle région, d'ailleurs.
Tout à fait.
Alors, tu fais effectivement de la broderie, donc de manière très moderne. Hein. C'est de la moderne... alors, je ne vais pas me risquer à le dire en anglais. Je ne suis pas sûre de bien prononcer. C'est quoi embroidery?
Oui, il n'est pas facile, ce mot.
Ouais. Pourtant, je suis... quand même plutôt fan de la langue anglaise, mais celui-là, il est
oui,
pas c'est évident.
Il y a un enchaînement de voyelles assez étonnant.
Et donc, c'est avec de la broderie que tu présentes façon hoop art,
oui,
donc dans les tambours à broder, dans les cercles à broder.
Oui, en fait, la broderie, je la conçois vraiment comme un médium pour mes dessins, en fait. Et donc, mes dessins, j'ai envie de les encadrer. Donc, ça devient de la broderie purement décorative, mais qu'on va vraiment afficher au mur de chez soi, donc en préservant le tambour à broder, qui normalement n'était qu'un support d'ouvrage à l'origine. Ouais. C'est-à-dire qu'on brodait dans le tambour et on enlevait le tambour à la fin de son ouvrage pour en faire quelque chose d'autre. Donc, c'est le virage qu'a pris la broderie ces dernières années. Depuis quelque temps, on laisse ce tambour comme cadre.
Ouais, et c'est super joli. C'est vraiment... Alors, tes créations, déjà, à toi, sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup ce que tu crées avec les personnages féminins et qui ont des bouquets de fleurs.
Oui.
Je crois que c'est ces modèles-là qui me plaisent le plus.
Oui.
Et puis, alors, je veux bien que tu nous expliques ce qu'est précisément la linogravure.
La linogravure, c'est un procédé d'impression artisanale. Qu'on construit donc à partir d'une plaque en linoléum. Mmh. Le linoléum, c'est tout simplement l'ancêtre de nos sols en lino.
Ouais.
Simplement, il n'était pas fabriqué de la même manière auparavant. Et donc, cette plaque-là, on vient la graver donc avec des outils qu'on appelle des gouges.
Ouais.
Et après, c'est tout le système du tampon, finalement.
Ouais.
Ce qu'on va creuser, ce qu'on va évider dans la matière, ce qu'on va retirer de la plaque,
ne sera pas imprimé.
Sera blanc.
Ouais.
C'est ce qui ne recevra pas d'encre une fois imprimé sur le papier, puisque une fois qu'on a fait le travail de gravure sur notre plaque, on vient passer un rouleau d'encre, donc à plat sur la plaque, et l'encre ne se dépose qu'en surface, donc tout ce qui est creusé restera blanc.
Voilà. Donc c'est vraiment le principe du tampon,
oui,
sauf que j'imagine qu'on appelle plutôt ça de la linogravure quand c'est sur des surfaces un peu importantes, et un tampon c'est quelque chose de beaucoup plus petit.
Oui, on peut établir la différence là-dessus, mais en fait c'est surtout que tout ça, ça fait partie de la grande famille de la gravure.
D'accord.
Et dans la gravure, on va avoir différentes catégories de gravures qui souvent sont déterminées par le matériau utilisé. Donc la linogravure, parce qu'on utilise du linoléum, et
d'accord,
on aura aussi de la gravure sur zinc, de la gravure sur bois. On aura tout un tas de matériaux qui peuvent servir à réaliser la plaque.
D'accord, ok. Oui. Alors aujourd'hui, tu vends sur Etsy. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à faire le choix d'Etsy, et est-ce que tu envisages d'avoir ta propre boutique e-commerce?
Oui, alors Etsy, quand on commence, pour moi c'est un choix qui est assez simple, assez évident, puisqu'on peut partir du principe qu'en démarrant, on a besoin de se faire connaître, on a besoin aussi d'aller à l'efficacité, d'aller à l'essentiel. Et Etsy, c'est une plateforme qui a fait ses preuves pour ce qui est de l'ergonomie, de la facilité d'utilisation. Donc c'était une manière de pas me soucier de ce côté purement technique,
oui,
de la mise en vente, pour me concentrer vraiment sur
tes produits,
sur des créations. Voilà, au début ça, c'est important de se libérer un petit peu de cette partie là et puis c'est une plateforme qui est un petit peu rassurante aussi, puisque on cherche à toucher des gens potentiellement aux quatre coins de la planète, et Etsy permet ça grâce au moteur de recherche intégré. Il suffit de faire un petit peu attention à la façon dont on ajoute des hashtags sur ses créations. Donc, voilà, c'était un choix logique au départ. Donc là, ça fait un petit peu plus d'un an. Maintenant, c'est vrai que j'ai conscience que ça n'a pas non plus que des avantages, puisque c'est une plateforme qui engendre des frais qui sont pas toujours simples à estimer, puisque voilà, il y a des centimes qu'on déduit ici et là. Donc bon, c'est quand même un choix que je ferai probablement évoluer à moyen terme, mais je pense que c'est un bon tremplin au début. Et puis voilà, il faut pas mettre non plus tous ses œufs dans le même panier. Moi je ne vends pas que par Etsy, il y a beaucoup de personnes qui me contactent directement sur Instagram surtout, et puis par mail.
Oui.
Là c'est plutôt pour les réalisations sur mesure qui ne passent pas par Etsy.
D'accord. C'est quoi la taille, par exemple, d'une broderie, de la broderie la plus grande que tu aurais faite, hein? Parce que là, on voit dans les cercles à broder, c'est très précis, très fin et très petit, entre guillemets.
Oui.
Est-ce que tu as fait déjà des broderies qu'on t'aurait commandées qui sont d'une dimension un peu particulière?
Oui. Alors, je dirais que le format par défaut, celui que je mets le plus en vente sur Etsy, ce sont des broderies d'environ 18 cm de diamètre.
Ouais.
Après, quand c'est des travaux sur mesure, là, c'est vraiment pris en compte dès les premiers échanges de mails avec la personne, selon qu'elle veuille que ce soit une pièce forte dans sa décoration,
ouais,
selon le budget aussi qu'elle est prête à y consacrer, puisque évidemment, ça a une incidence. Et dans ces cas-là, la plus grande broderie que j'ai réalisée jusqu'à présent, c'était une broderie dans un cercle de 30 cm de diamètre ou 40,
d'accord,
je ne sais plus trop exactement. Mais c'est vrai que moi, j'ai des aspirations à créer des choses en des broderies pour me challenger, des broderies qui seraient un peu plus imposantes, mais c'est toujours le temps qui manque pour venir à bout de ces projets annexes. Là, évidemment, ils ne sont pas prioritaires par rapport au reste.
Oui, aux commandes, oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est ton activité à plein temps, il me semble, depuis 2018, c'est ça?
En fait, ça a été mon activité à plein temps dès le jour où je me suis lancée. J'ai une activité qui est plurielle, mais auparavant, j'étais professeure des écoles, moi. Et bon, mon schéma de vie, c'était de préparer tranquillement la mutation vers ce métier plus créatif. Et puis, bah, parfois, les choses ne se passent pas exactement comme on les a pensées sur le papier. Donc, ma sortie de piste s'est faite de manière un petit peu plus abrupte que prévu dans l'éducation nationale. Donc, finalement, voilà, je suis tombée dans le grand bain du jour au lendemain. D'accord. Ce que je ne conseille pas forcément aux personnes qui voudraient se lancer ou qui voudraient tester leur petit business créatif au départ.
Du coup, c'était peut-être un peu trop d'incertitude pour toi de passer d'une activité, alors j'allais dire salarié, c'est pas salarié parce que tu es donc fonctionnaire,
oui,
à une activité complètement freelance sans aucune protection garantie, entre guillemets, ça doit être difficile.
Alors oui, je confirme, moi je suis de nature plutôt anxieuse, donc... Sur le papier, ce parcours entrepreneurial, il est un petit peu atypique, étant donné mon caractère. Disons que sur la ligne de départ, je ne coche peut-être pas toutes les cases par rapport à l'image de l'entrepreneur rempli de confiance en lui et ambitieux qu'on peut se faire, même si je pense qu'il y a tous les profils de l'entrepreneur. Mais c'est vrai que oui, je suis forcément en proie au doute, d'autant plus quand on quitte un statut parmi les plus sécurisants, avec un salaire garanti en fin de mois et garanti à vie, pour au contraire embrasser l'insécurité la plus totale. Donc il y a de quoi avoir le vertige parfois quand je prends le temps de m'asseoir un peu et regarder ce que j'ai laissé derrière moi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on peut aussi entreprendre quel que soit son caractère de base.
Alors, ça me fait penser à deux choses. C'est effectivement, depuis que j'ai commencé le podcast, je me rends compte que ça a l'air, le doute, que ça a l'air d'être une caractéristique un petit peu commune. Donc, je pense qu'il y a le doute qui paralyse et puis il y a le doute qui fait quand même un petit peu avancer et ça doit plutôt tendre vers le côté le doute qui fait avancer pour les créatrices qui osent se lancer et qui aujourd'hui ont du succès ou voilà, et qui avancent en tout cas.
Oui, c'est ça, mais des doutes, je pense que le doute est moteur dans tous les cas. Moi, des doutes, j'en ai tous les jours. Parfois, je suis trop dans le rush des commandes pour avoir le temps de me laisser justement douter. Mais là, on se parle en plein milieu du mois de janvier, qui est, je crois, un peu, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres créatrices, qui est une période assez déstabilisante. Il y a des jours où on a plus le temps de penser justement à ces périodes de rush qu'on a pu vivre plus en fin d'année, justement.
Donc, de Noël.
Bon, il y a des jours où j'ai envie de me rouler en boule, où l'idée de penser à ce pari un peu fou que j'ai fait me donne vraiment des sueurs froides. Ouais. Et puis, il y a des jours où j'ai, au contraire, du mal à voir les choses autrement qu'à persister dans cette voie. Voilà.
Ouais. Et aujourd'hui, alors... J'ai une de mes auditrices qui m'a posé la question de l'argent qu'on peut gagner en choisissant cette vie d'entrepreneuse créative. Elle me disait, tu poses pas vraiment la question, et a raison, que je posais pas vraiment de questions liées aux revenus que ça pouvait générer. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'on arrive à en vivre? Alors, c'est un peu tôt dans notre conversation pour aborder ce genre de questions très cash. Et puis, en plus, en France, on n'est pas très à l'aise avec les notions d'argent qu'on gagne et tout ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, t'as le sentiment, c'est pas des chiffres que je veux, évidemment, mais est-ce que tu as le sentiment d'arriver à en vivre et d'être satisfaite de cette situation ou c'est plutôt encore en construction?
C'est vrai que cette question-là, elle revient souvent dans...
Avec tes proches, peut-être?
Alors, non, pas avec mes proches. Mais par rapport aux questions que je peux avoir sur Instagram ou par mail aussi... Les personnes qui suivent un peu nos parcours sont souvent intéressées par cet aspect-là. Alors, peut-être parce que eux aussi pensent éventuellement à se dessiner un parcours dans cette voie-là, mais c'est souvent la première question qui arrive.
Ah oui.
Et souvent, j'ai l'habitude de répondre que, ben, en fait, l'entrepreneuriat créatif, ça n'est rien d'autre qu'une entreprise comme une autre.
Oui, tout à fait.
Un lancement de marque, c'est un lancement de projet. Or, on irait peut-être moins demander à un autre projet, alors, je ne sais pas, un projet plus industriel ou quel qu'il soit,
un projet de plus grande envergure. Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi.
Oui, il ne marche pas dès le début. En fait, Rome ne se construit pas en un jour. Donc, du jour au lendemain, on ne gagne pas sa vie, c'est sûr.
Ouais.
C'est long, c'est un processus. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant toute la phase de construction d'un projet, on peut aussi choisir de ne pas se rémunérer parce qu'on a envie de réinvestir ce qu'on gagne pour acheter du matériel, pour développer un projet qu'on n'avait peut-être pas les moyens de développer au départ et de faire grandir sa marque un peu plus vite aussi que si on se rémunérait, que si on picorait en fait dès le départ parmi ce qu'on gagne. Moi, j'ai fait le choix de... Déjà, je pars d'un métier que j'ai quitté et qui m'a fait gagner ma vie pendant quelques années. Bon, j'ai un petit bagage, un petit coussin de sécurité qui me permet de me lancer avec mes projets et puis peut-être, oui, de ne pas me rémunérer tout de suite.
Ouais.
Alors aujourd'hui, je prends ce dont j'ai besoin quand j'ai besoin, mais voilà, je ne considère pas que je me rémunère. Je prends ce dont j'ai besoin quand j'ai besoin et puis c'est tout. Je suis ma seule employée, donc c'est vrai que j'ai peu de frais aussi de ce côté-là. J'ai pas de boutique physique,
ouais.
J'ai pas de local. Je travaille avec très très peu d'intermédiaires puisque ce qui est de la linogravure, c'est moi qui imprime. Je gère le processus de création de A à Z. Donc ce que je gagne, soit je le prends pour moi quand j'en ai besoin, soit au contraire, je décide de le mobiliser. Là, par exemple, j'ai renouvelé mon optique d'appareil photo. Donc voilà, ce sont des frais que j'ai pu faire grâce à mon entreprise et en choisissant du coup de les réinvestir plutôt dans cette optique-là plutôt que de me verser un salaire. C'est vrai que le salaire devient un petit peu un peu une notion floue quand on se lance comme ça parce qu'il n'y a plus vraiment de salaire à proprement parler. En tout cas, quand on en est à un an de lancement d'activité, on ne peut pas vraiment parler de salaire en tant que tel.
Ouais, d'accord. Mais tu as raison, le parallèle avec un autre entrepreneur dans un autre secteur, c'est pas dit qu'on lui demande s'il arrive à en vivre. Mais en même temps, ça doit dépendre aussi un peu du secteur, mais... ou du nombre de salariés, du projet, de l'envergure du projet.
Oui, oui.
Ouais.
Non, mais il faut vraiment être OK avec le fait que non, on ne va pas gagner sa vie le jour où on va ouvrir sa boutique. Ce n'est pas, c'est pas possible.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis après, voilà, ça dépend de ses objectifs, ça dépend comment on a envie de faire grandir son projet. Voilà, il faut savoir quoi faire avec l'argent qu'on gagne à partir de ces créations.
Ça marche. Alors, il y a une question que je ne t'ai pas encore posée, c'était comment tu avais commencé à créer. Mais j'ai fait quelques recherches avant, il me semble avoir lu que tu avais toujours dessiné, que ça avait toujours été en toi, en fait, cette création.
Oui, tout à fait. J'ai toujours été extrêmement bricoleuse depuis l'enfance. J'étais vraiment du genre à collectionner les livres sur les bricolages du mercredi ou bricolage des jours de pluie. Ces livres-là me faisaient absolument rêver quand j'étais petite. Donc je dessinais, j'ai même créé une marque de bijoux quand j'étais enfant que je vendais de force à mes sœurs. Et puis c'est surtout le dessin, en effet, qui me plaisait. Donc j'ai toujours dessiné et puis la broderie, j'y suis venue progressivement, sachant que en étant bretonne, la broderie, elle a toujours plus ou moins infusé en moi parce qu'elle fait partie du patrimoine en Bretagne. On la retrouve sur les costumes traditionnels bretons, elle est mise en valeur dans nos musées. Il y a des types de broderies propres à chaque ville. Dans le Finistère, on a par exemple la broderie Glazig, originaire du pays de Quimper, qui vient des costumes traditionnels breton masculin.
D'accord.
Et donc, c'est un type de broderie très travaillé qui se concentre sur les motifs. Donc, on est très, très loin des dessins que je crée. Mais, par exemple, le point de chaînette, qui est un point que j'utilise pas mal, eh bien, c'est un point qui est très présent dans ce type de broderie traditionnelle. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'à partir des mêmes points, d'un même alphabet, en fait, on peut créer des broderies complètement différentes.
Ouais,
donc,
d'accord.
La broderie, elle a toujours été là, un peu latente. Et puis, en fait, j'ai eu un déclic un jour en participant à une journée au sein de l'école de broderie d'art de Pascal Jaouen à Quimper. Donc, Pascal Jaouen, c'est un brodeur et styliste très reconnu. Et je crois que cette journée, elle est intervenue à un moment qui était le bon pour moi, puisque je dessinais déjà, donc. Et j'en étais à chercher une manière de renouveler mes dessins. Donc, à trouver le bon médium, le médium qui leur correspondrait et qui me permettrait d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer à travers mes dessins. Et en fait, à la fin de cette journée, je crois qu'il y a des fils qui se sont connectés dans ma tête, c'est le cas de le dire. Et je me suis dit que la broderie pouvait être un médium, en fait, au même titre qu'un autre. Ça a commencé ouais. comme ça.
D'accord. Et tu avais quel âge quand tu as eu ce déclic?
C'était il n'y a pas si longtemps. Peut-être il y a 5 ans.
D'accord. Mais alors, comment on ne sait pas quel âge tu as?
J'ai 30 ans.
T'as 30 ans.
J'en fais d'accord, des doutes apparemment, mais j'en ai 30.
Effectivement, t'as une voix... En fait, je te posais la question aussi parce que t'as une voix jeune et sur les photos, tu fais jeune et donc il me semblait bien que t'étais plus jeune que moi.
Oui, oui, je suis ravie de faire découvrir au monde ma voix d'enfant.
Ah non, j'ai pas dit une voix d'enfant, mais t'as une voix jeune. Mais c'est, oui, non, mais c'est bien. Hein.
C'est une propre remarque que je me fais.
Ok. Je m'étais fait une réflexion aussi quand je regardais ta boutique Etsy. Aujourd'hui, les commandes que tu prends sur tes, par exemple sur ce que tu brodes, sur tes créations brodées et montées dans les donc façon hoop art dans les tambours, ces créations-là, tu les fais à la commande. Donc, ça veut dire que nécessairement, entre le moment où le client, la cliente passe commande et puis le moment où il va recevoir son petit colis, il va se passer quelques jours ou quelques semaines.
Oui,
comment... Je trouve ça génial, en fait. Enfin, à la fois génial et à la fois... Je ne suis pas sûre d'arriver à trouver le bon terme, mais dans notre monde aujourd'hui où on a été perfusés à du Amazon et que des gros sites e-commerce comme ça, avec une livraison la plus rapide possible et tu as à peine cliqué que ça y est, tu es déjà livré. Est-ce que tu as... Enfin, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Est-ce que tu as des personnes qui s'impatientent quand elles ne reçoivent pas leur commande assez rapidement, ou est-ce que finalement c'est le fait de prendre son temps, ça va avec le fait du fait main et c'est apprécié aussi par tes clientes?
C'est une très bonne question. Là, ça soulève vraiment différents aspects. Certains que je vais vraiment chérir et au contraire d'autres qui me pèsent parfois. Parce que oui, en effet, donc, il y a du délai. Pour chaque création, alors il arrive que j'ai des choses en stock. Ça va surtout concerner les linogravures, puisque oui. je peux en imprimer plus rapidement, les reproduire ouais. plus facilement. Mm-hmm. Mais par contre, une broderie, en toute logique, le temps consacré à une broderie, on ne peut le reporter sur aucune autre. Donc c'est vraiment un travail, un temps qu'on consacre à un article à la fois. Donc, il y a forcément du temps. Je pourrais ne proposer que des choses que j'ai en stock, mais jusqu'à présent, en tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai préféré travailler, puisque c'est toujours difficile dans ce cas de savoir sur quelle broderie miser,
ouais,
laquelle avoir en stock. Mmh. Et là, voilà, ça me permet de toucher un maximum de personnes. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus attirées par mes broderies assez chargé d'animaux. Là, c'est une technique de peinture à l'aiguille, comme ça s'appelle. Et au contraire, il y a des personnes qui sont beaucoup plus attirées par mes broderies féminines avec des fleurs. Mm-hmm. Voilà, garder cette possibilité de proposer...
Oui, un catalogue plus fourni, ouais.
Voilà. C'est, donc, laisser le choix à chacun. Et en même temps, moi, c'est me permettre de dégager du temps seulement pour ce qui est vendu et ne pas me perdre à créer du stock que potentiellement je ne vendrai pas.
Tout à fait, oui.
Donc, c'est vrai que c'est un temps long dans lequel s'inscrit la broderie. Alors, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un seul retour de personnes qui s'inquiéteraient de ne pas voir sa broderie arriver. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai de la chance d'avoir toujours échangé avec une clientèle extrêmement bienveillante depuis le début de mon activité.
Mmh.
Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et c'est vrai que j'essaye aussi toujours, dès la prise de commande, d'engager un échange.
Oui.
Je ne laisse pas une commande dans le vide. Comme ça, je vais vraiment au contact de la personne. Je lui explique qu'il va y avoir un délai de confection, mmh. Ce qui est noté dans les fiches produits, mais c'est toujours oui. Bon d'avoir un réel échange quand même avec la personne. Et dans ces cas-là, j'essaye déjà de donner une petite estimation du temps de confection qui sera nécessaire pour lui expédier la commande. Mais oui, c'est sûr que en fait, ça m'inscrit dans une échelle des temps qui est difficilement comparable avec celle de grandes plateformes de vente comme Amazon, pour ne citer,
ouais.
pour ne citer que ça. Mais ça va aussi avec la nature même de la broderie qui
oui.
L'activité du temps long, les gens en ont conscience et je pense aussi que c'est qu'ils apprécient. Après,
ouais.
En termes de logistique, là j'ai pu voir les limites de ce fonctionnement-là en fin d'année. Là j'en
ouais.
Suis encore un peu à m'en remettre. C'était très intense la fin d'année et puis il m'a semblé, c'est vrai que oui, c'est intéressant qu'on soulève la question du coup parce qu'on est en plein mois de janvier, donc c'est cette période un peu entre deux,
ouais.
Dans le ventre mou de la reprise d'activité après la fin d'année intense. Et, moi, j'ai commencé à travailler à la fois sur les commandes de fin d'année et à gérer aussi les marchés de créateurs, les événements auxquels j'ai participé. Et donc voilà, je reprends mes esprits là, mais ça a été très difficile de venir à bout des commandes, de tous les engagements que j'avais pris. Et puis là, j'ai touché du doigt presque les limites du 100% schéma, en quelque
ouais.
sorte.
Les limites physiques dont tu parlais sur Insta, où effectivement, tu avais mal, quoi. Alors, je ne sais pas si c'était les mains, les poignets, les bras.
Oui, oui, oui. Ben, c'est la combinaison de la broderie et de la gravure, en fait, qui
ouais.
sont... En fait, elles sont complémentaires et en même temps, elles jouent sur les mêmes,
les mêmes muscles
presque. Donc oui, c'était particulièrement intense. Donc là, je me suis forcée à lever le pied, mais en fait, c'était plutôt la main. Et la mettre au repos parce que voilà, j'ai trop conscience de la nécessité de soigner un petit peu son propre vaisseau quand on est à ce point-là dépendant de ses mains pour travailler, donc il faut faire attention.
Ouais, ça me fait penser à la question est peut-être très bête ou très américaine, j'en sais rien. Est-ce que tu as assuré tes mains?
Non, je n'ai pas fait, je vais
d'accord.
y penser.
Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est un fantasme, enfin un fantasme, tu vois, une croyance liée au film américain, je ne sais pas.
Ah, je ne sais pas, Jennifer Lopez s'était fait assurer les fesses, je crois, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'assurer les mains.
Ouais, bon, tu nous diras.
Je vous dirai.
bon, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu décousu, mais en fait, habituellement, je suis un petit peu les questions que j'ai préparées, mais là, j'ai aussi tout un tas de remarques que je me suis faites en regardant un petit peu ton parcours, en faisant mes petites recherches pour préparer l'interview. Et alors, du coup, c'est pas forcément hyper, hyper structuré, mais bon. Voilà, ça se fera spontané. Du coup, il n'y a pas forcément de transition hyper, hyper travaillée. on parlait des créas que tu vends sur ta boutique. Alors, tu me dis si je fais erreur, mais j'ai cru comprendre qu'il y a quelques mois en arrière, tu proposais des abonnements 3 mois et maintenant, tu étais plutôt sur des abonnements duo, donc sur 2 mois. Ça, c'est, je fais erreur ou il y a eu ce changement un petit peu dans ton offre?
Alors, non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que depuis janvier 2019, donc j'ai lancé les guides et modèles de broderie dans le prolongement des créations que je proposais telles quelles, parce que c'était une attente
Ah
que
oui,
je
je pense.
recevais de la part des personnes qui me suivent et qui savent broder et
Voilà,
qui
qui voulait
manquaient
broder
juste.
eux-mêmes.
Voilà, c'est ça. J'avais besoin de modèles, d'être un petit peu encadrée. Donc, moi, j'ai fait le choix de proposer des guides. Des guides qui sont donc riches en photographies et en explications, en petites anecdotes et conseils. Et donc, je les vends à l'unité. Donc, chaque mois, il y a un nouveau modèle qui sort sur ma boutique Etsy. Et puis, je propose, pour ceux qui le préfèrent, une formule abonnement. Donc, en effet, en 2019, c'était une formule de 3 mois. Mais c'est simplement passé à une formule duo pour ce mois-ci exceptionnellement parce qu'en fait, je vais faire évoluer un petit peu la formule à partir du printemps. Et donc, j'avais besoin d'amorcer ce virage-là en m'alignant un petit peu avec des abonnements en cours, qu'il n'y ait pas de chevauchement en fait. C'est simplement ça.
Et pourquoi tu ne vends tes modèles, tes guides que pendant un mois et après, si j'ai bien compris, on peut pas l'acheter. On peut plus l'acheter.
Oui, alors moi c'était une question de logistique, mais surtout parce que sur ma boutique Etsy, je n'avais pas envie qu'on ne voie plus que ça.
D'accord, que ton nouveau modèle soit noyé.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc j'ai voulu opter pour quelque chose de simple, où il n'y a qu'un modèle PDF qui apparaît sur ma boutique et que le reste soit consacré à mes créations. Voilà, parce que je ne veux pas non
D'accord.
plus ne me consacrer plus qu'au modèle. Donc je préfère garder une offre plutôt restreinte. Et en même temps, voilà, je me dis qu'un mois, c'est suffisant pour les personnes qui auraient eu envie de le découvrir ou de s'y mettre, sachant que je communique assez dessus sur mes réseaux au cours du mois. Et puis, ça me permet aussi de suivre les saisons, de renouveler les choses vraiment en termes de saisonnalité. Voilà.
Il y a quelque chose aussi qui m'avait bien plu dans dans ton approche et sur ton blog. Tu parlais de soldes raisonnés et raisonnables, et notamment en lien avec les initiatives d'Etsy pour les dernières soldes, les derniers soldes, parce que solde est féminin et masculin. Je fais une petite
Oui,
parenthèse, je travaille dans la langue française. Donc des soldes raisonnés, je trouvais ça super, super bien. C'est beaucoup ce qu'on lit au niveau du fait main. Et c'est bien de le rappeler en fait. Et finalement, je crois qu'à chaque période un peu de grosses opérations commerciales, c'est bien de le rappeler. Ça fait un peu écho au Black Friday aussi, où c'est cette année-là, enfin, à l'automne dernier, c'était plutôt le Green Friday qu'on voulait qui soit un
Bah,
peu mis en avant.
cette année, moi, je n'ai pas fait de solde sur ma boutique. D'ailleurs, je n'ai même pas communiqué non plus à ce propos. J'en ai fait un non-sujet. Mais l'année dernière, en effet, j'avais été approchée par Etsy pour proposer une sélection de créations.
C'est à cet article que je fais écho et que
Oui,
je fais
d'accord.
référence.
Ouais. Mais bon, les soldes, pour ce qui est de la broderie, c'est difficilement compatible avec mon mode de fonctionnement puisque le principe des
T'as
soldes,
pas de
c'est
stock,
d'écouler un stock invendu. Donc, c'est difficile d'écouler un stock invendu sur quelque chose qui se crée à la commande.
Forcément,
Donc,
c'est de toute façon tu pourrais pas le faire légalement, quoi.
c'est ça. C'est complètement... Ça ne va pas. Donc, je pourrais éventuellement le faire sur quelques linogravures que j'ai en stock. Cette année, je n'ai pas fait. Parce que je pense que de toute façon, les gens ont bien intégré le fait que c'était pas vraiment le lieu, enfin, la nature de produit à s'y prêter. Et de manière générale, moi, ce que je propose à travers mes créations, j'essaye aussi de me l'appliquer à moi-même, que ce soit dans ma consommation de manière générale. Je suis pas forcément très friande de soldes moi-même. J'essaye de valoriser la petite création autant que possible aussi. Donc voilà, ça fait partie d'un tout. Ça ne me correspond pas plus que ça.
Et alors, j'ai lu autre chose sur ton blog. Tu étais partie à la recherche d'inconnus brodés. tu racontais sur ton blog et après tu as fait tu as poursuivi sur Instagram en racontant l'histoire d'une photo que tu as chinée d'un couple, enfin, ou d'un homme et d'une femme.
Oui.
Et tu t'es lancée à la recherche de l'identité de ces deux personnes photographiées et en plus c'est une photo sur laquelle tu avais gravé brodé un bouquet de fleurs. Et alors la première question c'est est-ce que tu as eu des nouvelles de l'identité de ces personnes?
À mon grand regret, non. Mais je profite de ce podcast pour renouveler mon appel. J'attends toujours. Mais oui, c'est vrai que c'est parti d'une idée un peu saugrenue, comme j'en ai parfois. Je me suis dit, bah, Instagram, ça peut servir à ça.
Et pas que à rechercher des doudous perdus dans le train.
Non, voilà, pourquoi pas rechercher des inconnus. Mais ça a été j'ai été dépassée par ma propre initiative, en fait, parce que je m'attendais à faire un vrai plat dans la piscine en proposant cette photo. Et en fait, non, je crois que les gens ont été aussi touchés que je l'avais été par cette photo. Ouais. Moi, je ne sais pas, elle m'a transmis quelque chose quand je l'ai trouvée. Et en fait, le projet a été relayé par énormément de monde qui m'ont même aidé à traduire les petites informations qu'il y avait sur le côté de la photo. On a réussi à remonter un petit peu jusqu'à la source du studio photo qui avait imprimé cette photo.
Ah ouais.
Si je me souviens bien, c'était un studio ukrainien.
Ah.
Donc ça a compliqué un petit peu la recherche à partir de ce moment-là. Mais c'était chouette. C'était en fait une preuve de ce que Instagram est encore capable de générer comme émulation gratuite et collective.
Ouais, c'est bien dit. Et alors moi, ça m'a fait penser à un livre de Baptiste Beaulieu qui s'appelle « Toutes les histoires d'amour du monde ». Et en fait, c'est exactement, enfin, c'est pas pile la même histoire, mais c'est il a écrit un livre. Alors, Baptiste Beaulieu, il est médecin et il est donc auteur depuis quelques livres maintenant. Alors moi, j'adore ce qu'il écrit. Et dans son livre, qui est un roman, mais qui est quand même très lié à sa propre histoire. Il raconte l'histoire je crois que c'est Moïse, si je ne voudrais pas dire de bêtises, je l'ai lu déjà il y a quelques mois, qui est son grand-père, en fait, qui a été déporté, ça se passait pendant la guerre, et donc il voulait retrouver, pareil, il a une photo, il a des photos, et il voulait retrouver la femme de son grand-père, qui, elle, était allemande, et lui français, et donc c'est un amour interdit, mais finalement il y a quand même un enfant qui est né de cette union, etc. Et voilà, il essayait grâce à Instagram et à ce livre de retrouver cette jeune femme à l'époque et qui est aujourd'hui plutôt quelqu'un qui est plutôt une personne âgée, quoi. Voilà.
Ouais, je connaissais pas ce livre, j'avais une autre référence, moi c'est le livre Les gens dans l'enveloppe,
oui,
par Isabelle Monin.
Ouais.
C'est un peu...
Ouais, c'est des belles histoires, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Mmh. Alors, je crois que j'ai fini mes questions, enfin mes remarques que j'avais notées. Donc, aujourd'hui, tu brodes. L'art du fil, il est assez large en dehors de la broderie. Est-ce que la couture t'attire? Est-ce que le tricot t'attire? Ou c'est vraiment que la broderie?
Alors, j'aime beaucoup observer et rester documentée sur tout ce qui concerne les arts du fil, même si je ne vais pas forcément pratiquer, parce que la broderie me prend tellement de temps que quand je lâche mes aiguilles, j'ai plus envie de toucher du fil. J'ai envie d'aller voir la mer, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire de la photo, mais pas tant de reprendre des aiguilles pour faire autre chose.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'ai quand même touché à tout avant de venir à la broderie. Et on va dire que tant que tout ça ne faisait que partie de mes loisirs, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai tricoté un petit peu, j'ai cousu un petit peu aussi. J'ai testé le tissage il y a quelques années aussi. J'aime le punch needle aussi.
Ouais.
J'aime tout ça. C'est simplement une question de priorité maintenant et de, comment dire, pour que tout ça reste un peu sain en moi, je me force à plutôt faire complètement autre chose quand je lâche enfin mes aiguilles. Sinon, je vais vite fait de rester engluée dans mes pelotes et mes échevettes, et c'est pas forcément bon pour
l'équilibre. En fait. Ouais. Et alors, du coup, tes loisirs en dehors de ton activité business, de ton travail, c'est donc effectivement plutôt la photo et aller te balader, quoi.
Oui, alors on va dire que cette année, tout ça a été mis beaucoup entre parenthèses parce que, ben voilà, une première année d'entreprise, c'est énormément de travail, énormément de choix à faire. Il faut prioriser. Donc il y a beaucoup de loisirs que j'ai mis de côté. Moi, je suis une passionnée de cinéma. Bon, jusqu'à présent, j'y allais une fois par semaine. Bon, là, je n'ose même pas dire combien j'y suis allée au cours de l'année dernière. J'ai un parcours très littéraire. Donc j'ai fondé toutes mes études sur la littérature. Là encore, je n'ose pas dire
combien
le peu de livres que j'ai lus en 2019. Donc voilà, il va falloir que je refasse petit à petit de la place pour ce qui m'anime, parce
ouais.
que justement ça fait partie des limites que j'ai touchées du doigt en fin d'année dernière, c'est que il faut garder cette soupape là, ces loisirs là, parce que c'est aussi moteur comme le reste pour rester inspiré, pour rester épanoui aussi dans ce concret.
Oui, c'est encore un équilibre fragile. Il faut le trouver, ouais.
C'est d'autant plus vrai que quand on a fait passer progressivement quelque chose qui faisait partie de son loisir, la broderie, j'y suis venue, c'était un loisir. Et en fait, quand on en fait une partie de son métier, on a une période où on est un petit peu déstabilisé, justement, à ne pas savoir quoi faire dans ces moments de creux, puisqu'il faut, re-remplir ces moments-là d'autres choses. Il faut se forcer maintenant à garder cette broderie, et la gravure aussi, c'est pareil, dans un cadre professionnel, où je m'arrête si possible de broder quand j'ai un moment à moi, alors que c'était mon réflexe auparavant de prendre mes aiguilles pour broder, sortir de ma semaine de cours. Tout est une affaire de redéfinition des loisirs, en fait.
Ouais. Et est-ce que le fait que ce ne soit pas ta formation initiale, tu es confrontée aujourd'hui au syndrome de l'imposteur ? L'impression de ne pas être à ta place, de ne pas être légitime ?
Oui, forcément. Je crois que le syndrome de l'imposteur, on est très, très nombreuses à le connaître.
Ouais.
Mais oui, je le connais très très bien. Je crois que je le connais d'autant plus que j'ai eu un parcours très scolaire et que j'ai toujours construit ce que je faisais en m'appuyant sur mon bagage d'études.
Ouais.
Et j'avais toujours ce rapport de je sais pas comment expliquer ça, mais disons que quand on vient quand on a eu un parcours comme le mien, moi j'ai fait une classe préparatoire littéraire à Hippocagne et Cagne.
Oui.
Et bien, quand on sort d'un parcours comme ça, je crois que le jour où on devient autodidacte dans un tout autre domaine, c'est un peu comme si on perdait sa béquille, en fait.
Ouais.
Voilà. Mais bon, je tends à me persuader que tout ce que j'ai fait auparavant, finalement, je viens m'en nourrir quand même aujourd'hui. Il y a des jours où je m'interroge, comme je disais tout à l'heure, sur ce que j'ai quitté. Et puis, au contraire, il y a des jours où je me dis que non, tout ça me sert encore. Je me dis que je m'appuie sur la force de travail que m'a permis d'acquérir mes années en classe préparatoire littéraire. Je m'appuie sur ce côté littéraire pour essayer d'écrire du
pour
contenu
ton blog.
De qualité. J'adore écrire. Je m'appuie sur l'enseignement pour transmettre de la façon la plus pédagogique qui soit au sein des ateliers que je propose. Donc voilà, tout ça sert.
T'as raison. T'as carrément raison. Effectivement, souvent, on a un peu tendance à se dévaloriser et à se dire « oui, mais pourquoi j'y arriverai ?» ou « pourquoi moi ?» etc. Je ne suis pas si extraordinaire que ça. Et puis finalement, c'est exactement ça. Là. Ouais, c'est... Impeccable.
Mais c'est pas facile. On se le dit pas tous les jours, Voilà, il y a des jours de moins bien où, au contraire, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tous ces efforts dans mes études et au final, je brode. Eh bien, oui, je brode.
Alors, comment tu te présentes aujourd'hui à quelqu'un que tu connais pas? Tu lui dis que tu fais quoi?
Alors, c'est rigolo. Ça va dépendre de mes interlocuteurs, de mon humeur aussi. Et alors, la mesure étalon de tout ça, ça va être souvent les trajets en covoiturage. Parce que la question arrive toujours dans les trajets. Et vous faites quoi dans la vie? Et à chaque trajet va sa définition selon les affinités que je sens avec la personne, oui. Selon la réceptivité. Il m'arrive de dire « je suis enseignante ».
Ah ouais.
Je reste parfois à dire que je suis enseignante et là, c'est simple. La discussion s'arrête de façon très, très, voilà, c'est ok. C'est un métier qui veut dire quelque chose chez les gens. Donc voilà, c'est fluide. Et puis parfois, je sens un peu plus de réceptivité. Donc là, je me risque à définir un petit peu l'entrepreneuriat créatif. C'est plutôt ça que je retiendrai comme terme un peu global, de manière générale. Quand je n'ai pas un peu la flemme d'entrer dans les détails, c'est ce que je dis. Et puis après, je développe, voilà, parce que c'est une activité qui est complètement composite. Et qui évolue au jour le jour, en fait. Donc, c'est une activité plurielle.
Ouais.
Mais l'entrepreneuriat créatif, c'est le dénominateur commun à tout ça.
Ouais. Est-ce que tu envisages, je ne sais pas, peut-être dans quelques années, quand tu auras peut-être un peu fait le tour de tes broderies, peut-être, de faire autre chose, de continuer toujours sur ce principe à la fois de transmission et de création originale, mais peut-être avec d'autres supports, d'autres médiums.
Oui, tout à fait. Moi, je garde vraiment toutes les portes ouvertes. Mmh. J'ai l'impression de n'en être
qu'au début.
Du projet créatif que j'aimerais développer. Ouais. C'est vrai qu'en 2019, c'était une année de lancement. Ça m'a demandé énormément d'énergie et il a fallu que je fasse passer des choses au second plan. Mais disons que la fin d'année 2019 m'a montré que j'avais envie de remettre un petit peu plus sur le devant de la scène. Je sais que je trouve que je n'ai pas assez écrit en 2019. J'ai vraiment mis l'accent sur mes créations. Alors que l'écriture, ça fait vraiment partie aussi de ce que j'ai envie de partager, la photo également. Je n'exclus pas que peut-être une année, la production en tant que telle, elle prendra un peu moins de place par rapport peut-être à la mise en valeur du travail d'autres personnes,
ou
le partage de plutôt de tutoriels, que ce soit pour mon blog, pour des marques, pour des magazines. Mmh. Tout ça fait partie d'un même tout, en fait.
Oui, tout à fait.
Et puis voilà, ça évolue.
Oui. Et alors justement, tu parles de marques et de magazines. Aujourd'hui, tu as des sollicitations, des demandes de partenariat qui se font?
Oui, là, il y a des petites choses qui se créent en coulisses, petit à petit.
On a vu un concours avec DMC aussi?
Oui, DMC. DMC m'avait contacté pour découvrir des produits comme les marques le font régulièrement avec les personnes qui sont un peu dans le domaine. Donc, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de découvrir leurs produits en avant-première et puis de partager un petit peu ce qu'on peut faire avec ma communauté. Je déteste ce terme, mais...
C'est vrai.
C'est comme ça qu'on l'appelle, je crois.
Ouais. Il n'y a pas bien d'autres termes, mais c'est vrai. Ouais, je suis un peu comme toi. Ça fait un peu gros mot, quoi, ou mot beaucoup plus...
Ça fait un peu sectaire.
Oui, en plus, ça fait un peu secte, c'est vrai.
Mais oui, voilà, ça fait partie des choses et des partenariats qui peuvent se nouer petit à petit, oui.
Mmh, d'accord. Quand tu as fait ce virage un peu donc à 180 degrés, tu as reçu le soutien de tes proches ou ça a été compliqué?
J'ai reçu une incompréhension totale de mes proches, je pense, qui ont eu un petit coup de chaud quand ils ont compris ce que je m'apprêtais à faire.
Ouais.
Et puis en même temps, je fais ce que je veux. Voilà.
Ouais, c'est ta vie. Bon.
Voilà.
Ok. Quelle approche tu as des réseaux sociaux aujourd'hui? Et ma question aussi, c'est par rapport au blog. Donc en plus, tu aimes écrire, donc tu as ton blog. Tu continues de l'alimenter, contrairement à plein de gens qui ont un peu lâché l'affaire, dont
ouais,
moi.
Ouais, un peu hein, quand gens. Même. Ça fait partie de mes
oui.
grands regrets.
Ouais, d'accord. Mais donc tu vas poursuivre en
oui,
2020.
Il y en a plus cette semaine. Je suis trop contente.
Et alors au niveau d'Instagram, j'ai vu que tu avais Facebook aussi, mais c'est un petit compte entre guillemets.
Oula oui. Oui.
Ouais,
oui.
C'est compliqué de faire les deux, je trouve. Ça prend
oui,
déjà un
puis,
temps. Fou.
En fait, c'est un cercle vicieux et vertueux
ouais.
à la fois, parce que
ouais.
Instagram, je sens que mon compte Instagram est assez dynamique en ce moment
ouais.
et j'ai beaucoup d'échanges, donc ça m'encourage à partager davantage et à proposer du contenu de qualité.
Mmh.
Alors qu'à l'inverse, Facebook va plutôt me servir de relais de mes articles de blog.
Mmh.
Mais il n'y a pas vraiment de dynamisme du tout sur ma
ouais.
page Facebook aujourd'hui. Alors, c'est peut-être parce que je n'encourage pas à ce qu'il y ait du dynamisme, je ne sais pas. Ce n'est pas en tout cas mon cheval de bataille.
Ouais. Écoute, avec toutes les interviews que j'ai faites jusqu'à présent, il y a juste Anne-Charlotte qui me disait qu'elle continuait de bien publier sur Facebook et que bah, chaque réseau avait son importance et sa propre communauté, etc. Donc, elle mettait un point d'honneur à continuer à la fois de bloguer et de poster sur Facebook, en plus d'Instagram.
Ouais.
Mais c'est vrai que bon, on a l'impression qu'il se passe plus rien sur Facebook, quoi. C'est,
oui,
c'est
oui.
rigolo quelque part.
Mais j'ai pas l'intention de disparaître complètement, mais voilà, c'est une page qui vivote et
ouais.
tant que ça me sert à relayer mes articles de blog,
mmh.
Je me contente
oui.
de ça.
Ouais, ouais.
Donc
d'accord.
c'est vrai que mon approche des réseaux sociaux, elle se construit vraiment surtout autour d'Instagram aujourd'hui.
Ouais, ouais, ouais. Et le côté très éphémère d'Instagram, ça te pousse, c'est une des choses qui te pousse à vouloir aussi bloguer davantage?
Oui, et puis surtout le blog, ça permet vraiment d'aborder des contenus de fond.
Ouais, d'aller plus loin. Ouais.
Alors qu'Instagram, voilà, on a une petite légende qui ne va pas nous permettre d'aller bien loin. Même
ouais.
si les supports tendent à se multiplier, s'enrichir de plus en plus. À partir du moment où on manie à la fois la vidéo, la photo, l'écriture, Instagram a de quoi être riche aussi. Mais par contre, pour le côté éphémère, ça c'est vrai que le blog, ça reste le support le plus durable qui fait que, bah oui, avec une recherche Google ou
ouais.
sur n'importe quel moteur de recherche que ce soit, un thème qu'on a abordé il y a 4 ans peut très bien remonter dans les réponses de notre
ouais.
moteur de recherche. Donc forcément, le blog, il ne faut pas le mettre de côté.
Ouais, ouais. Et sur Instagram ou sur le blog, quelle est ta vision des choses par rapport à un peu le côté vie privée aujourd'hui, tu consacres peut-être plus de posts à tes créations qu'à parler de toi. Et des fois, on a un peu l'impression qu'il faut absolument être très... comment dire, à parler beaucoup de soi sur, mais de manière un peu privée, quoi, de s'étaler un petit peu entre guillemets sur les réseaux sociaux.
Oui, moi, comme beaucoup, je crois, j'ai un rapport assez ambivalent avec Instagram. C'est un réseau que je trouve passionnant comme manière de rapprocher des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, comme façon de découvrir à la fois des savoir-faire, des compétences, des visions du monde aussi, des espaces qu'on n'aurait peut-être pas découverts autrement que par l'image. Pour se faire connaître aussi, c'est assez formidable par le prisme d'Instagram de se dire qu'on peut toucher des personnes à l'autre bout du monde. Ça, c'est le versant positif d'Instagram. Et moi, sur mon compte, j'essaye d'en faire un espace où je ne vais pas uniquement en faire une vitrine commerciale de ce que je vends.
Mmh.
J'ai envie de garder quelque chose de un bon équilibre.
D'authentique.
Oui, et à la fois donc proposer mes créations et puis garder un peu une certaine part d'inspiration, un peu des coulisses aussi, un peu de mes coups de cœur, un peu de mes engagements. Mais oui, c'est vrai que le curseur est assez difficile à situer, à placer dès lors qu'on est un petit peu le seul capitaine à bord, en fait. Parce que, moi, je suis assez pudique et je sais qu'il y a une limite que je n'aurais pas envie de franchir sur Instagram. Mais en même temps, il faut quand même avoir un peu... un côté un peu humain sur son compte Instagram quand on a envie de créer du lien avec les personnes qui nous suivent. Voilà, tout ça, c'est une question d'équilibre, de ce qu'on veut bien montrer. De toute façon, on ne partage que ce qu'on veut bien partager, et puis le reste privé.
Tout à fait, ouais. Est-ce que sur Instagram, tu t'es déjà posé la question de te filmer en train de broder pour poster en fait ce type de contenu, des contenus vidéo qui sont très en vogue par rapport aux contenus photo beaucoup plus statiques ou au texte?
Ça fait partie des nombreux chantiers abandonnés en cours dans mes petits projets liés aux réseaux sociaux. C'est vrai que jusqu'à présent, ça n'a jamais été prioritaire. Je sais qu'il faudrait que je le fasse plutôt, mais y a toujours plus urgent à faire que ça. Donc, pour l'instant, non. Et puis, comme j'ai la fâcheuse tendance à préférer ne pas faire plutôt que de mal faire, c'est aussi un conseil que je donnerais. Ne faites pas comme moi. Faites, au contraire, et puis vous améliorerez en faisant. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, pour l'instant, je me suis abstenue. Et puis, un jour, ça arrivera. Je le fais un petit peu avec les stories, parce que là, on tolère un côté un peu plus approximatif. Ouais. Et puis voilà, c'est les coulisses, c'est un peu sur le vif. Donc là, il y a de la vidéo, il y a un peu plus de choses comme ça. Voilà, c'est tout pour l'instant.
Ok. Est-ce que tu peux partager avec nous tes sources d'inspiration?
Elles sont très, très, très larges, mes sources d'inspiration. Par quoi commencer? Je pense que je ne suis en fait jamais plus inspirée que quand je coupe Instagram, que quand je coupe les réseaux, même si c'est quand même une grande source d'inspiration, mais je vais plutôt être inspirée en plongeant dans un bon film, en ouvrant un livre, en filant en pleine nature, en attrapant des bribes de conversation entre des personnes que j'ai croisées dans la rue. C'est tout ça en fait qui m'inspire, qui se lie en fait dans une sorte de syncrétisme de tout ça. Et en fait, sur Instagram, je trouve qu'on peut vite fait avoir on peut vite fait se retrouver empêtré dans ce qui a déjà inspiré les autres, mais qui peut plus peut-être nous faire culpabiliser ou plutôt douter de ce que nous on serait capable de faire nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Donc, Instagram, oui, mais voilà, sinon J'aime l'esthétique des années 20, j'aime le sport vintage, l'esthétique du sport vintage. Je suis passionnée de le tennis des années 20, c'est mon petit truc à moi, je suis fan. Et puis évidemment, la Bretagne, les bords de mer bretons, ça c'est une source d'inspiration infinie. Le cinéma, les fleurs, la nature de manière générale, le style british. Tout ça, les personnes croisées dans la rue, voilà. Je trouve que je suis une hypersensible, donc j'ai toujours un peu les yeux en éventail quand je me balade.
Ouais, d'accord.
C'est un handicap en même temps qu'un atout, je pense, parce que du coup, ça me permet de mettre facilement toutes ces inspirations ou ces petits bouts d'inspiration dans un sac, de bien secouer, et a priori, il en ressort toujours quelque chose.
J'aime bien l'image. Est-ce que... alors, j'ai vu que tu avais un portrait sur Créa Passion qui avait été fait en 2018. Mm-hmm. Créa Passion, c'est une grande maison d'édition pour les loisirs créatifs. Est-ce que tu envisages, tu as déjà pensé à écrire un livre?
Alors oui, ça fait partie des possibilités qui verront le jour peut-être tôt ou tard. Mais oui, ça fait partie des pistes. Comme j'ai dit, je garde vraiment les portes ouvertes à tout. Et c'est vrai que le livre, ça cocherait un petit peu toutes les cases de ce que j'aime faire, puisque ça me permettrait d'écrire tout autant que de transmettre quelque chose.
Bon, il y a la photo aussi qui est très importante dans un livre.
Oui, tout à fait. Si j'avais la chance de pouvoir m'en charger, en tout cas, parce que c'est pas toujours... une possibilité que nous laissent les maisons d'édition. Mais en effet, si un projet doit se faire un jour, j'aimerais pouvoir prendre en charge les photos. Oui.
D'accord. Est-ce qu'on passe un appel ou si jamais il y a des éditeurs qui nous
non,
écoutent?
Non, moi j'ai tendance à laisser les choses se faire. On verra, qui vivra verra.
Ok. Et alors, tes prochains challenges créatifs en 2020, on va dire donc plutôt à court terme, à moyen terme, oui. C'est quoi? Est-ce que c'est les vidéos? Est-ce que c'est le livre? Ou non, ça c'est vraiment plutôt c'est le bonus et tu te concentres sur d'autres choses?
Alors, j'aimerais déjà retrouver un certain équilibre.
Ouais.
C'est bête à dire, c'est tout simple, mais retrouver une meilleure manière de cloisonner un petit peu. Les choses entre ce que je peux créer et puis mon propre bien-être,
ouais.
Parce que j'ai un peu trop tiré sur la corde fin 2019, donc j'aimerais bien.
Ouais. Est-ce que tu arrives à te poser des limites ou c'est justement ce que tu voudrais faire? Par exemple, ne pas travailler après, je sais pas, après 6h30 ou 7h le soir, pas travailler le week-end, c'est ce genre de choses que tu voudrais faire?
Oui, alors j'aimerais surtout réussir à ne pas travailler après 4h du matin. Quelque chose, c'est une limite que j'ai franchie en décembre.
Ah
et
ouais.
C'est pas possible, clairement ça n'est pas possible. Le sommeil c'est précieux,
ouais.
Et donc voilà, j'aimerais bien ne pas reproduire ces mêmes erreurs là et trouver une manière de continuer à faire grandir mon projet, alors à le diversifier,
ouais.
Tout en préservant un certain équilibre personnel. Donc je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est demander le beurre et l'argent du beurre, mais j'aimerais bien pourtant réussir.
D'accord. Bah écoute, non, j'ai pas l'impression que ce soit demander la lune.
Non.
Est-ce que tu as des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne ou que tu voudrais partager avec la communauté créative?
Alors, par rapport à un projet créatif, par rapport à Instagram.
De manière générale, ce qui t'inspire, ce que tu as envie de partager.
Ouais. Bah écoutez, je ne sais même pas quoi répondre.
Alors, est-ce que tu as un conseil Instagram pour réussir à avoir un compte aussi dynamique que le tien?
Alors là, ça me parle. Là, tout de suite, ça réveille en moi des choses. Oui. Instagram, c'est vrai que c'est un réseau qui me plaît bien. Bon, déjà, je pense qu'il faut déjà définir ce qu'on veut faire de son compte.
Ouais.
Parce que les conseils ne seront pas les mêmes selon qu'on veuille simplement partager ses créations, ses réalisations avec une communauté créative dans les loisirs créatifs, ou au contraire qu'on veuille développer sa marque ou un projet pro quel qu'il soit.
Ouais.
Donc je dirais que si on utilise Instagram à titre professionnel, je pense que c'est bien de, bah justement on en parlait tout à l'heure, de ne pas en faire exclusivement une vitrine commerciale qui renvoie à ce qu'on vend, mais voilà, de bien équilibrer les choses en termes de contenu pour que le compte reste dans le partage et pas simplement dans le regarder ce que je vends. Je pense que le plus difficile, c'est de trouver le bon équilibre par rapport à ça, de rester cohérent. Mais c'est à nous de trouver notre propre cohérence, puisqu'il n'y a pas de cohérence universelle et immuable pour faire marcher son compte Instagram en 10 leçons. Mais voilà, c'est ce que je dirais. Et puis, bah, l'idéal, c'est de publier des photos à peu près jolies quand même. On est sur un réseau de l'image, voilà, ne faut pas l'oublier.
Ouais.
Et puis sinon... À titre général, quand on lance un projet créatif comme celui-là, je dirais qu'il ne faut pas faire comme je l'ai fait, idéalement. Il faut bien préparer sa reconversion, en tout cas si c'est une reconversion. Moi, je n'ai pas pu faire autrement, les choses se sont présentées comme ça. Donc, je me suis lancée de façon un petit peu plus précipitée que ce que j'avais pensé sur le papier en premier lieu. Mais oui, dans la mesure du possible, je conseillerais plutôt aux personnes qui écoutent, qui seraient tentées par l'aventure, de tester leur activité. Souvent, on peut le faire en parallèle de son métier dans un premier temps. Alors, c'est compliqué dans la fonction publique, justement. Sans entrer dans les détails, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à faire, notamment dans l'éducation nationale. Mais si on peut le faire, si on a la possibilité de le faire, son employeur est d'accord. de préparer le terrain et puis de se lancer progressivement ensuite, en étant bien entourée.
Ouais, super. Ça marche. C'est quoi ta plus grande fierté? Et ça sera notre mot de la fin.
Ben, peut-être d'avoir osé, tout simplement.
Ouais.
D'avoir osé alors que j'étais dans un microcosme où souvent on a du mal à sortir, à sortir de ce milieu-là, de se lancer, de faire un pas de côté. Voilà, ma fierté, c'est d'avoir réussi à faire ce pas de côté parce que je pense que c'était le plus difficile à faire, ce pas
ouais,
de côté.
Se lancer, ouais. Ok, super. Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup pour tout ton temps.
Ben, merci, merci à toi.
Et puis, donc, on te retrouve sur Instagram directement sur ton compte Marion Romain.
Tout à fait.
Et puis sur ton blog.
Oui, aussi.
Voilà.
Que je vais essayer de redynamiser un petit peu autant que possible cette année.
Donc, le blog, c'est directement marionromain.fr.
C'est ça.
Super, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marion.
Merci.
Me revoici. J'espère que vous avez apprécié la douceur de la voix de Marion, que vous retrouverez dans ses créations. Comme d'habitude, je vous invite à nous faire un coucou sur Instagram, sur le compte de Marie, @marionromain, et sur le compte du podcast, @podcastfaitmain. C'est vraiment important pour moi qu'on puisse poursuivre les échanges sur Instagram, alors n'hésitez pas. Et comme je le disais dans l'intro, abonnez-vous à la chaîne YouTube. À chaque épisode, je crée une vidéo avec l'onde de nos voix. C'est sympa et ça m'amuse bien. À bientôt !